Bon, excusez-moi, je suis arrivée en décalage, mais je reprends le travail qu'a fait Emmanuel au début. Donc, je suis Evine Lecuc et je vais passer la parole tout de suite à Lilan Magnot, en remerciant à nouveau Jean-Luc Imp pour le caractère extrêmement précis et pointu de tout ce qu'il nous a apporté ce matin. Donc, Lilan, nous allons avancer dans le temps, chronologiquement, atteindre une période qui touche, je crois, à la fin du 19e siècle et à la première moitié du 20e siècle. Vous êtes aussi chercheuse, musicienne, et après votre intervention, nous aurons tout de suite, en fait, une petite discussion avec Jean-Michel Fournereau et Antonin Lebrun. Je conclurai la matinée avant que vous ne partiez au déjeuner. Donc, à vous, Lilan.
Bonjour à tous. Il se trouve que, un peu paradoxalement, j'ai lu, comme vous tous, la problématique donc de ce jour, qui était, enfin, de ce que j'ai pu lire, le lien qui pourrait y avoir entre des laboratoires du passé, entre la relation du théâtre de marionnettes et de la musique, et celle, en fait, de la création contemporaine. Alors, partant de ce principe-là, ce qui n'est pas réellement mon sujet, en fait, de recherche, puisque je me focalise essentiellement sur le rôle de la musique écrite pour le théâtre de marionnettes, à partir de l'époque du symbolisme, jusqu'à l'avènement de la musique concrète, 1948, initiée par Pierre Schaeffer. Je suis partie, en fait, de cette période parce que j'ai lu un grand marionnettiste dont français, Jacques Chenet, dont j'avais déjà parlé en fait en 2007 à propos du Palais des Étoiles, et qui disait que les marionnettes modernes commencent en fait véritablement en 1886. L'exploration en fait donc que j'ai faite dans la période de l'histoire de la musique procède à travers différents langages musicaux de l'esthétique française. Je pense donc à l'influence du drame wagnérien parmi de nombreux compositeurs, dont Ernest Chausson, dont nous allons vous interpréter deux très courts extraits musicaux pour illustrer notre propos, avec Jean Uraville ici présent, ancien cadre de direction administrative à Radio France, donc qui nous prête très aimablement son concours pour aujourd'hui. Et donc, parallèlement en fait à cette influence du drame, il y a aussi la recherche en fait de la vocalité naturelle à la française. Et nous allons en fait vous en interpréter un petit extrait afin de pouvoir saisir quelle serait cette vocalité naturelle, cette aspiration en fait vers une vérité symbolique. Alors je vais faire un petit résumé parce que concernant en fait mon parcours. Au niveau en fait du matériau musical qui pourrait y avoir de commun entre l'héritage du passé, donc parlant du langage symbolique, et je vais parler donc de Chausson, puisqu'on va vous interpréter un extrait qui était contemporain de Debussy, et Debussy en fait avait voulu lui dédier notamment une œuvre moderne, son quatuor à cordes, et puis finalement on se laisse pas trop mal passer, il ne l'aura pas fait. De l'époque de Debussy, et Chausson donc en fait à travers trois compositions pour le théâtre de marionnettes de la Galerie Vivienne a composé trois musiques. La première en fait dont nous allons interpréter un tout petit extrait, c'est la légende de Sainte-Cécile, ça s'appelle d'après la légende dorée de Voragine. Et dans ce petit extrait, nous allons entendre qu'il était difficile. Pardon, qu'il était difficile en fait la collaboration avec l'écrivain de l'époque qui était devenu directeur du petit théâtre que vous savez fondé par Henri Signoret, qui était un littéraire symboliste et qui voulait donc promouvoir le grand répertoire à travers le médium en fait de la marionnette. Donc voilà, il a fait appel à des amis sculpteurs et architectes pour certains venaient du sud de la France, Perpignan et Marseille. Et il se trouve que trois compositeurs ont collaboré pour ce théâtre, Chausson, aussi Casimir Bail qui était organiste, assez rangé, et puis également Paul Vidal. En ce qui concerne donc la musique de Chausson, ce qui est intéressant, en fait, à mon avis, dans les deux petits extraits que nous allons interpréter, c'est de voir quelle serait la conception du drame de l'époque. Enfin, c'était un renouvellement du drame que voulaient les artistes à travers ce petit théâtre d'essai de la rue Vivienne face au drame wagnérien qui était monumental et qui est devenu le poison wagnérien pour ce qu'on appelait la bande à Franck, César Franck. Une collection de compositeurs de la fin du 19e siècle. Et d'ailleurs, César Franck était d'origine belge, mais représentant quand même de la musique française en ce qui concerne la musique d'orgue. Ce que je voulais dire, c'était que Chausson, donc, à travers sa première œuvre de la légende de Sainte-Cécile, voulait le naturel. Le problème, c'était que Bouchard était devenu le directeur du théâtre depuis 2 ans, en 1890. Et a priori, en tout cas à l'époque, dans ce petit théâtre, il y avait une primauté accordée au texte, voire une péremption que Bouchard a exercée sur Chausson et qui a été extrêmement douloureuse pour lui. Donc il a fait, en fait, il a dû découper sa musique, des lambeaux de musique, comme Honegger d'ailleurs plus tard, qui parlera en fait parallèlement de la musique de film de tapisserie sonore. Donc c'est le souci qu'avaient certains musiciens qui ont écrit pour la scène d'être en fait en arrière-plan, voire derrière les coulisses, puisque donc les musiciens étaient cachés. Hein, donc en fait on va le voir peut-être en iconographie. Je vais taper pour la première image qui représente en fait le petit théâtre. Enfin, d'accord, voilà. Il y a problème de la déclamation entre Bouchard qui restait sur le vers et puis l'avènement du vers libre de Jules Laforgue, avec Rimbaud également, dans Marine, me semble. Mais dès les années 1880, vous avez la volonté d'une déclamation naturelle, mais Bouchard, lui, alors il reste un petit peu trop classique pour Chausson en tout cas, et donc ça fait un clash. Et donc je vais vous interpréter juste quelques petites mesures pour essayer de démontrer peut-être que, vous allez entendre, il y a un petit souci entre la prosodie et puis la musique qui est quand même très belle et qui regarde quand même un petit peu vers l'avenir, parce que vous allez entendre quelques enchaînements d'accords peut-être qui vous rappelleront un peu cette musique de l'avenir dont Wagner était un symbole, mais renié par Chausson et puis ses amis.